Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
Je suis ravie de recevoir aujourd'hui une incroyable thérapeute transgénérationnelle qui a aussi créé la méthode de la lecture du corps et est l'auteur du livre « J'arrête de subir mon passé » aux éditions Erol. Elle est aussi proche de Michael Rhodes, qui est un enseignant international sur l'amour inconditionnel et auteur d'un livre sur ses enseignements. Passionnée par l'humain, la métaphysique et la nature, elle aime observer et décrypter les mouvements de vie. Avec elle, aujourd'hui, nous allons parler justement de comment mettre l'amour inconditionnel au cœur de nos vies. J'ai la grande joie d'accueillir pour la 3e fois dans Métamorphose Céline Tadiotto. Bonjour Céline.
Bonjour Anne, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui et de pouvoir faire cet échange.
Oui, alors on a déjà fait 2 épisodes, un qui était sur le transgénérationnel.
Oui, tout à fait.
Lié à ton livre « J'arrête de subir mon passé » pour celles et ceux qui ont envie de réécouter ces épisodes. Et le deuxième, plus c'était vraiment au cœur de la pandémie, plus sur la lecture du corps. Hein.
Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs sur ces 2 premiers podcasts de Métamorphose. Et c'est magnifique de voir comment le fait que tu proposes aux individus d'enregistrer, d'écouter des perles comme ça, ça touche, ça, c'est guérissant.
Oui.
C'est vraiment ce qui revient, ce qu'on me dit, ce qu'on me partage.
Ah bah c'est aussi l'objectif, hein, Métamorphose.
Alors ça fonctionne parfaitement bien.
Le podcast qui éveille la conscience. Alors on va commencer au cœur de notre sujet, qui est un sujet absolument universel et merveilleux. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Est-ce qu'il est partout?
Alors l'amour inconditionnel, d'en parler, c'est presque intimidant pour moi, tellement c'est un sujet magnifique. C'est un sujet... De plus, qu'il est difficile de décrire, parce que l'amour inconditionnel, ça ne se réfléchit pas. C'est quelque chose que l'on vit. C'est une attitude intérieure vers laquelle on tend. C'est très difficile de l'amener dans le mental et de l'intellectualiser dans des paroles, dans une tentative de le décrire. Alors, on va essayer de faire du mieux possible.
Oui. Alors, d'abord, peut-être revenir sur ta rencontre avec Michael Rhodes, hein, cet enseignant international qui vit aujourd'hui, je crois, en Australie, qui est anglais d'origine et qui enseigne cela. Il a écrit beaucoup de livres sur l'amour inconditionnel et plein d'autres sujets.
Oui, tout à fait.
Il enseigne aussi avec sa femme. Comment s'est passée cette rencontre et pourquoi es-tu tombée justement un peu en amour de son enseignement?
Complètement. Je suis ravie que tu me donnes l'occasion d'en parler parce qu'en fait, ma rencontre avec Michael Rhodes s'est faite quand j'étais toute jeune maman, il y a plus de 20 ans. Et c'est au travers de l'amour et d'un état de béatitude que j'ai un peu quand je suis dans la nature. Et en fait, ce plaisir à être baigné dans la nature, à pouvoir juste être dans l'observation, c'était quelque chose qui était pour moi vraiment de l'ordre de l'intime et du sacré. Je me souviens d'un jour où j'étais un peu désespérée, j'ai souvent été désespérée dans ma vie, et où je me suis allongée sur le sol en forêt, et j'ai senti que la terre-mère m'aimait. Je me suis sentie dans des bras qui ne pouvaient pas être abandonnants. Et en fait, là, on approche déjà du sujet de l'amour inconditionnel. Et lorsque j'ai rencontré, c'était sur une foire écobiologique en Alsace, à Rouffach, j'ai rencontré deux livres qui m'ont attirée, et c'était des livres de Michael Rhodes. Et quand j'ai lu « Dialogue avec la nature », que je conseille à tous de lire, ça a été pour moi un choc de voir qu'à l'autre bout du monde, il y avait un homme qui décrivait exactement ses expériences, et qui décrivait combien son âme, son être, s'ouvrait à une dimension immense qu'on va appeler l'amour inconditionnel pour savoir de quoi on parle, mais qui est en fait un état d'être où on se sent inconditionnellement le bienvenu. Mmh. Voilà ma rencontre avec Michael. Et en fait, les aléas de la vie m'ont brinque-ballé, hein, comme chacun d'entre nous, mais ce rapport à la nature, au fait de me sentir immensément la bienvenue dès que je suis, même sur une pelouse, quand je suis en contact avec la terre, ou quand je regarde le ciel, ou quand je suis dans les lacs magnifiques suisses, par exemple, eh bien, cet état d'être m'est resté. Et un jour, j'ai découvert complètement fortuitement, je le raconte à l'intérieur du livre, que Michael Rhodes enseignait tout autour du monde, l'amour inconditionnel. Pour moi, ça ne faisait pas un pli, il fallait que je le rencontre, il fallait que j'aille discuter avec lui, et j'ai eu la grande chance de pouvoir participer en fait à l'accueil des stagiaires quand il anime des intensifs en langue française. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Michael Rhodes.
Et ensuite, tu as suivi ses enseignements.
Oui, en fait, on ne suit pas véritablement les enseignements de Michael Rhodes, parce que Michael Rhodes parle d'amour. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose, à nouveau, qu'on peut intellectualiser. Par contre, avoir le plaisir de pouvoir expérimenter intérieurement et dans sa vie des états modifiés d'amour, on va dire, tu sais, on parle des états modifiés de conscience, d'avoir la possibilité de l'expérimenter avec d'autres, mais c'est un cadeau à se faire dans une vie. Voilà, donc ce n'est pas tant de suivre des enseignements que de s'ouvrir, en fait, à cet état.
Qu'est-ce qui a provoqué chez Michael Rhodes cet éveil comme ça à l'amour inconditionnel pour qu'il devienne enseignant quand même sur le sujet, même si tu dis que ce ne sont pas des enseignements, ça s'expérimente. Qu'est-ce qui dans son être et dans son parcours, toi tu as écrit un livre qui s'appelle L'effet Michael Rhodes. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc il y a quand même quelque chose qui se produit à ce moment-là, hein, pour qu'il y ait un effet.
Oui, alors comme je ne suis pas dans la peau de Michael, j'aurais du mal à raconter si tu veux. Mais ce qu'il dit, ce qu'il écrit, c'est que c'est passé aussi par la nature et cette fusion, en fait, dans cet état qui nous accueille tel qu'on est. Tu sais, quand on a l'habitude de dire « Oh, les chiens sont vraiment, nous donnent l'enseignement de l'amour inconditionnel », mais c'est vrai, finalement, les animaux, on voit dans des zones où il y a eu peu de massacres humains, et bien finalement, les animaux, les pingouins, s'approchent de nous, ils ne sont pas du tout effrayés. Il y a une sorte d'accueil et d'acceptance spontanée qui est en fait notre véritable nature. Donc, pour Michael Rhodes, c'est ça, c'est cette rencontre avec la nature également qui l'a amené à ça.
Dans ta vie, toi, est-ce que y a eu des changements justement par rapport à ça, le fait de pouvoir rencontrer cet homme, cet amour inconditionnel que tu avais déjà ressenti, mais le fait de pouvoir peut-être plus le conscientiser dans une espèce peut-être aussi de vigilance, de retour à cet amour inconditionnel, ça a changé quelque chose dans ta pratique thérapeutique, dans ton quotidien ?
Je dirais que Michael Rhodes n'est pas le seul qui m'est mis sur ce chemin. Ça a intensifié l'aspect quotidien. Vois-tu, parce que finalement, c'est comme une expérience mystique, mais qui est accessible à tous. On met les pieds dans un lac et puis on est ravis d'être là au soleil. C'est une expérience mystique. Et du coup, la rencontre avec Michael Rhodes en chair et en os, cette fois, plutôt que par sa pensée, m'a vraiment permis, oui, d'aborder ça au quotidien. Et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. De pouvoir... on dévie, hein, sans arrêt. Il m'arrive d'être en colère. Alors moi, j'ai un défaut, je suis en colère contre les vendeuses ou les caissières. Parfois, c'est complètement stupide et ça ne me sert absolument à rien. Mais voilà, j'ai un rappel intérieur. Je sais quoi faire dans
cette
situation.
Pourquoi tu es en colère contre ces personnes?
Parce que, par exemple, j'ai un tel idéal du service à autrui que si je rentre dans une boutique et que les personnes continuent à papoter alors que j'ai besoin d'un renseignement, etc., je le prends personnellement.
Ah oui.
C'est complètement...
T'en fais une affaire personnelle.
J'en fais une affaire personnelle. Bon, eh bien voilà, première recette, n'en faites jamais une affaire personnelle de quoi
Miguel
que
Ruiz.
Ce soit.
Ouais.
Mais oui, ça sert vraiment à rien du tout. Et de pratiquer l'amour inconditionnel, si on peut utiliser ces termes, parce que c'est encore pas tout à fait juste, c'est plutôt de se rendre disponible à cet amour qui est en permanence présent. Eh bien, un des premiers outils, c'est de déposer le jugement. En fait, on utilise tellement d'énergie psychique à penser quelque chose sur quelqu'un, sur une situation, sur le monde, etc., et à en penser quelque chose qui, en général, n'est pas véritablement positif. Donc, le jugement est vraiment un empêcheur d'aimer en rond.
C'est joli. Quand tu parles d'amour inconditionnel, et dans ton expérience, on sent vraiment, et moi j'ai pu ressentir ça aussi, une forme d'état de félicité, de béatitude, de communion.
Complètement.
Avec la nature, avec le tout. Ensuite, quand il s'agit, entre nous, humains, d'aimer l'autre inconditionnellement, ça paraît parfois fou qu'en fait, on a le sentiment qu'il y a toujours quelque part une condition à l'amour, que la projection, quand l'enfant vient au monde, qui a presque déjà inconsciemment dans l'esprit des parents peut-être, alors j'en ai discuté avec d'autres interviewés, certains disent oui, il y a toujours une forme de condition à l'amour, même d'un parent pour un enfant, une forme de projection inconsciente qui donne quand même cette condition de départ, d'autres enseignants qui disent non. Certains parents ne projettent absolument rien sur leurs enfants. Alors toi qui es aussi thérapeute transgénérationnel, qu'est-ce que tu penses de ça?
En fait, je pense qu'on ne parle pas du même amour. On utilise le même mot, mais on ne parle pas du même état. Lorsqu'on parle de l'amour vis-à-vis d'un enfant, d'un conjoint, d'un collègue de travail, d'une voiture, d'accord, ou de sa famille, on parle finalement d'affection et d'état d'attachement. L'amour inconditionnel...
De sentiment.
Oui. Oui, c'est du sentiment et même de l'émotion. Hein? Comment est-ce qu'on est bougé et agi par l'autre humain? Et j'ai remarqué quelque chose vis-à-vis de l'amour inconditionnel, c'est que dès que j'en parle à quelqu'un, dès qu'on évoque ça, immédiatement, il y a une forme d'automatisme dans notre esprit qui pense à toutes les choses qui sont non aimables inconditionnellement. On pense tout de suite au pire, on pense aux défauts, on pense aux petites coquilles qui nous font du mal quand on marche dessus, etc. Alors qu'en fait, l'amour inconditionnel, si cette notion est trop difficile à aborder, on pourrait beaucoup plus l'aborder en se disant une confiance inconditionnelle, une joie inconditionnelle. Être de bonne humeur, c'est par exemple un état de joie inconditionnelle. Je suis de bonne humeur, même si le café n'était pas très bon ce matin, et puis qu'il ne fait pas le temps que j'aurais souhaité, etc. Le fait d'être en bonne humeur, c'est une forme de joie inconditionnelle. Et l'amour inconditionnel, ça n'est pas de réfléchir à est-ce que j'aime tout chez cet individu? Est-ce que j'arrive à tout accepter? Et puis celui-ci, il est pédophile, comment est-ce que je pourrais l'accepter inconditionnellement, etc. C'est pas tant de se poser cette question qui repose à nouveau sur le jugement, plutôt que de s'ouvrir, c'est comme d'ouvrir les ventaux.
Il y a un espace.
Exactement. C'est d'ouvrir de l'espace en se disant « Je n'ai pas besoin de me prendre la tête à penser ceci ou cela sur ce sujet-là, à ce niveau de conscience-là, parce qu'en fait, c'est une vibration, l'amour inconditionnel. » Alors, on n'est pas en train de réfléchir à la notion d'attachement spontané ou non à un enfant. On ne parle pas du même sujet. L'amour inconditionnel ne s'occupe pas non plus d'essayer de comprendre l'autre. Comprendre l'autre, c'est le prendre à l'intérieur de soi pour essayer de faire en sorte qu'il colle à nos critères. Voilà.
À nos projections.
Exactement. Mmh. Donc en fait, finalement, c'est de laisser l'autre être libre, tel qu'il est. Et puis le monde va mal, laissons-le libre tel qu'il est. Ça ne veut pas dire du tout
de ne rien faire.
Hein. Mais ça veut dire, ok, moi, je vais essayer d'apporter dans le monde de l'amour inconditionnel. Ça va faire beaucoup plus de bien que de porter du jugement, sans arrêt. Et quand je dis ça, ça n'a rien de dominant, en fait, vis-à-vis de personnes qui ont pour travail, par exemple, d'être dans la critique d'une pièce de théâtre ou autre. Mais c'est véritablement, offrez-vous des vacances intérieures, en fait. Juste de poser un regard bienveillant, compassionnel, gentil. La gentillesse, elle est presque moquée à notre époque. Quand quelqu'un est gentil, on dit c'est un bisounours. C'est tellement dommage. On en a tous tellement besoin de gentillesse, d'être accueilli avec simplicité.
Ça demande quand même ce que tu es en train d'écrire, une forme de changement de posture. Je sais que Caroline Rhodes, la femme de Michael, dit... par exemple, dans une situation, au lieu de se dire ce qu'on peut avoir tendance à se dire, qu'est-ce que j'ai à gagner, se dire qu'est-ce que je pourrais apporter à l'autre.
Exactement.
Donc ça demande quand même, parfois, un exercice.
Oui, c'est d'une certaine façon de ne pas se sentir comme étant un individu séparé du tout, mais bien plutôt, dans cet ensemble, qu'est-ce que je peux apporter. C'est vraiment ça. Caroline Rhodes dit également quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit « L'autre, c'est un soi-même dans un autre costume. » Et quand c'est ça, tu abordes plus du tout l'autre de la même façon. Vois-tu ? Je me suis rendu compte qu'il y a un écueil quand même pour aller vers cet état d'amour inconditionnel. C'est le fait de ne pas s'aimer soi-même. Si on ne s'accepte pas soi-même intégralement, on pourrait dire l'amour intégral, tiens, plutôt qu'un conditionnel. Ce serait peut-être plus facile à intégrer. Si on ne s'accepte pas complètement tel que l'on est, alors c'est beaucoup plus difficile, finalement, d'accorder ce droit à autrui.
Oui.
Et cet exercice peut être très intéressant de voir que toutes les espèces de petites fourmis piquantes de la journée qui viennent nous réactiver sur nos boutons rouges, c'est en fait des zones de nous-mêmes qui nous exaspèrent.
Mais est-ce qu'il est possible de s'aimer intégralement, comme tu le dis ? Oui, je trouve que le mot est bien choisi. C'est vrai que peut-être en anglais, unconditional est moins connoté avec cette idée de condition qu'on a en français, peut-être. Je ne sais pas, hein, je ne suis pas assez anglophone pour le dire, mais c'est vrai qu'en français, forcément, dès qu'on dit inconditionnel, on voit la condition. Hein, donc on
Exactement.
Parle tout de suite de la condition qui empêcherait. Mais dans cette idée d'amour intégral, est-ce qu'on peut, nous, dans notre incarnation, arriver à cet amour intégral pour soi ? Perpétuellement, où ça part et ça revient, hein, comme des états de switch, comme au moment où tu racontes que tu sens ces mains de Gaïa là, qui t'aiment inconditionnellement, ces bras-là.
Je pense que ça n'est pas ce que je vis pour l'instant. Je ne suis pas encore dans une forme de stabilité d'amour vis-à-vis de moi-même et je rencontre très peu de monde qui habite cet état. Michael et Caroline Rhodes, pour ce que j'ai pu observer, je les vois dans cet état.
Oui.
De permanence. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le bouddhisme. L'indéracinabilité, et puis cette forme de permanence d'un état, tout en étant dans l'impermanence du monde. Ok. Si je reviens à ta question, oui, je pense que l'on peut s'aimer intégralement. Regarde quand on est amoureux. L'autre, on le trouve mais tellement magnifique, merveilleux. Et on voit même que les coquilles de sa personnalité, ce qui exaspère les autres, on arrive à le comprendre, on trouve que c'est mignon, ça lui apporte quelque chose d'original, etc. C'est un état amoureux. Et effectivement, de générer cet état amoureux vis-à-vis de soi nous rend beaucoup plus beaux à nos yeux, parce qu'on rencontre quand même un écueil énorme, c'est notre aspect physique. On trouve mille et une choses à redire à notre aspect physique. Après, notre histoire de vie, qui mieux que nous la connaît ? On vit 24 heures sur 24 avec soi-même et on est finalement la personne que l'on accepte le moins ou le plus difficilement. Ça n'a pas de sens. C'est quelque part insensé que de ne pas être son premier supporter. Donc oui, et ça n'est pas autocentré, ça n'est pas égoïste. Oui, c'est important de s'aimer soi-même, d'être en amour avec soi-même. Et je pense que c'est tout à fait accessible.
Mais c'est vrai qu'il y a ce personnage de survie qui est aussi tellement important pour notre construction caractérielle dans ce monde qu'on a construit et qu'on a construit certainement en masquant souvent nos parts d'ombre. Et quand on réalise ça, c'est difficile de faire machine arrière et d'aller débusquer ce personnage, quelque part de survie, pour l'accueillir complètement et l'aimer intégralement.
Oui, tu as raison. Et j'ai la chance de pouvoir aimer énormément les personnes qui entrent dans mon cabinet. Ça fait plus de 20 ans que je pratique, et chaque fois qu'une personne passe la porte de mon cabinet, que je suis amenée à poser mes mains sur la personne pour faire une lecture du corps, par exemple, ou à l'accompagner au niveau transgénérationnel dans les déboires ancestraux, je ressens mais tellement d'amour vis-à-vis de cet individu. J'ai vraiment un épanchement du cœur. Donc, je dis que j'ai de la chance parce que finalement, je n'ai plus qu'à exercer cet épanchement du cœur à mon égard pour trouver le chemin de l'amour de moi-même. L'individu en survie, quand on voit notre petit bonhomme qui a 2 ans, qui se prend les pieds dans un tout petit caillou et qui s'étale parce qu'il ne sait pas encore bien marcher, on ressent tellement d'amour et d'envie, de soutien immédiat pour cet individu, que finalement, l'espace à l'intérieur de nous qui est en survie, qui est en souffrance, qu'on va appeler la personnalité, cet état-là, on devrait être dans cette spontanéité d'amour, en fait. Cette main tendue qui ne doute pas que l'autre va arriver un jour à marcher tout comme nous-mêmes, tout comme certains espaces de nous-mêmes. Mais dans ce que tu dis, je trouve quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, l'amour inconditionnel, c'est pas vraiment au niveau de la personnalité que ça se joue, c'est au niveau de l'être. Notre personnalité, on trouve toujours à redire. Finalement, pourquoi perdre du temps d'ailleurs à penser sans arrêt, à trouver à redire quoi que ce soit sur absolument tout? Ça, c'est une chose. Mais c'est depuis la personnalité qu'on fait ça. Depuis l'être, on est beaucoup plus des Bouddhas riants qui observons le monde avec bien-être. Je me souviens quand je vivais au bord de l'Atlantique, il y a une expression, c'était « être benaise ». Je trouvais que c'était un peu rond, un peu innocent, un peu niais, exactement. Oui, et ça. Pourtant, ça contient ça, être bien aise avec le monde.
Béa.
Intégralement, exactement. Dedans, il y a Béa. Donc voilà, ça, il me semble que c'est plutôt là le chemin. Hors de la personnalité.
Et pourtant, la personnalité, nous sommes incarnés dans ce corps, dans ce véhicule terrestre, dans cette vie sur Terre, et elles sont quelque part dissociables et à la fois indissociables. C'est-à-dire que nous sommes ce tout.
Complètement.
De l'âme, de l'être et de la persona,
oui.
De nos voix intérieures.
Il me vient une image, c'est celle d'une ampoule en fait. Il y a l'électricité qu'on pourrait appeler l'âme, et puis la lumière du filament qu'on pourrait dire l'être, et puis sans l'enveloppe qui contient, en fait, et qu'on va appeler l'ampoule, finalement, tout ça sert à rien, tout ça ne nous est pas accessible. Donc, la personnalité, elle est extrêmement importante, mais autant vivre sa personnalité dans la joie intégrale, en fait, d'être de bonne humeur à soi-même, d'être ravi. Hey, comment tu vas ce matin? Mais je suis tellement heureuse de vivre avec moi-même. Voilà, ça pourrait être des paroles que je génère à mon égard. Là où c'est véritablement un choix de positionnement, c'est qu'on peut s'installer ou non dans l'amour inconditionnel, ou dans l'amour intégral, dans l'amour tout court, dans la bienveillance, dans la compassion, dans la gentillesse. Je le répète, cet état de gentillesse est extrêmement important. C'est un choix, finalement, de bougonner même dans les pires moments. Il m'en arrive, comme n'importe qui, des pires moments. Tout dépend comment je le prends. Si je suis au tribunal parce qu'un être cher est en train d'être jugé, si je suis sur le bord d'une tombe parce qu'un être cher vient de passer, etc., bien sûr, c'est presque inconvenant que de se mettre à rire aux éclats dans cette situation. Mais rien ne m'empêche d'être de bonne humeur. Je suis peinée, je suis chagrinée, mais je suis aussi celle qui m'accompagne. Je suis celle qui met son bras autour de mes épaules en disant « Viens, on va boire un café. Viens, on va aller s'installer plutôt dans cette salle au soleil parce qu'il nous faut attendre 3 heures que le jugement soit rendu, etc. » c'est un état de choix.
C'est un état de choix, et parfois, est-ce que ça peut être une forme de posture un peu caricaturale aussi? C'est-à-dire qu'on sait qu'une habitude, il faut la... C'est cette expression anglaise « fake it until you make it hein. ». Il y a vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'à force même d'afficher ton sourire, on fait beaucoup ça quand on fait du sport, par exemple en marathon. On dit à un moment donné, quand tu es dans la souffrance, souris, parce que tu vas envoyer l'information finalement à ton cerveau. Bruce Lipton ne le dit aussi très bien dans la biologie des croyances. Et donc, à un moment donné, comment passer quand même de la, une posture qui peut être un peu caricature à vraiment l'intégration de ça?
C'est ça. Alors moi, je suis une adepte de la répétition.
Il y a un petit truc comme ça.
Oui. Je me souviens que la première fois que j'ai pratiqué volontairement, plutôt que d'aller dans la nature pour ressentir ça, j'ai installé un rituel personnel où je répétais sans arrêt, je choisis pour moi-même l'amour et l'abondance. Je choisis pour ma vie l'amour et l'abondance. Et effectivement, au début, quand je brossais mes dents en répétant ça, quand je tondais la pelouse alors qu'il faisait très chaud en répétant ça, je ne ressentais pas véritablement les effets. Et ça a pris à peu près un peu plus de 2 semaines jusqu'à 2 mois pour que je commence à sentir que j'émanais ce que j'étais en train de répéter. Donc, je suis entièrement en accord avec ce que tu es en train de dire. D'un autre côté, Joe Dispenza dit par exemple que nos neurotransmetteurs, c'est comme des sillons. Il est inscrit « je suis désolée pour cette vie, je suis triste, je suis ceci, cela ». Ça, c'est comme des tranchées, des autoroutes de l'information parfaitement inscrites dans notre cerveau. Et oui, ça demande un effort conscient de choisir l'amour. Là, c'est Michael qui répète ça, c'est son leitmotiv, choisir l'amour, choose love. Ça demande un acte conscient que de commencer à programmer quelque part notre cerveau autrement. En disant « je choisis pour ma vie l'amour et l'abondance » ou « j'inspire l'amour, j'expire l'amour, j'inspire l'amour ». D'être conscient de chacune de ces respirations, oui, c'est un acte volontaire, tu as tout à fait raison, qui au début peut paraître un peu insistant, maladroit et qui demande un effort jusqu'à ce que ça coule naturellement. Et ensuite, cet état, tu te rends compte qu'il fait une différence. Dans un supermarché, c'est des milieux que je trouve souvent agressifs, pour moi, entre la lumière, le son et l'agitation, eh bien, d'être dans un supermarché, quand je suis baignée dans, dans ce niveau vibratoire, on va dire, dans ce bain que je me suis auto-créé.
Oui, c'est une fréquence, en fait.
Exactement, c'est une fréquence. Alors, les choses, je ne les vois pas du tout de la même manière. Je trouve que cette personne, elle a mis tellement de soin à ranger les choses parfaitement, comme ça. Et ses étiquettes, regarde, elle a penser à mettre que là, on arrive presque à la fin du lot et qu'il va falloir en recommander. Je vois des petits détails qui m'émerveillent. Et l'émerveillement, c'est une attitude, c'est un regard que l'on peut poser aussi volontairement. La gratitude et l'émerveillement. Essayez, vous qui nous écoutez, de passer 24 heures à exprimer votre gratitude sur tout ce que vous voyez. Que ce soit la couleur du pull de cette dame que vous ne connaissez pas, jusqu'à cette brise toute douce qui vient de caresser votre joue, ce tram qui va dans la bonne direction et vous n'avez pas besoin de marcher, etc. Véritablement, à la fin de la journée, l'énergie est tellement différente de la veille où on n'a exprimé aucune gratitude. Donc la gratitude et l'émerveillement, oui, ça peut être des... Fake it to make it, c'est ça?
Fake it until you make it, ouais, c'est ça.
D'accord. Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses véritablement.
Voilà, jusqu'à ce que ça s'intègre véritablement.
C'est ça. Oui, c'est vrai, on peut le faire. Ça se pratique.
C'est la culture du kiff. Là, on vient aussi à Florence Servan-Schreiber, la gratitude attitude.
Oui.
Remarquer aussi ce qu'il y a de bon. C'est-à-dire même revenir en arrière, c'est-à-dire le faire. Mais aussi peut-être chaque début de journée, chaque fin de journée, se demander ce qu'il y a eu de bon, est-ce qu'il y a eu de doux, est-ce qu'il y a eu de... d'amour dans ma vie, dans ce quotidien.
Et je trouve que là, c'est une possibilité vraiment d'accompagner la personnalité avec beaucoup d'amour, en fait. Parce que c'est, on vit dans nos personnalités, on vit dans nos corps. Et du coup, de faire ça, de remarquer ce qui va bien autour de nous, mais on sent comme ça fait du bien, quoi. Alors qu'en fait, voilà, franchement, on est sur la planète pour 80 ans, 90 ans, peut-être plus, autant le passer, à voir ce qui va bien et à être tellement heureux et gloussant de ce qui va bien autour de nous.
Certaines personnes, on a le sentiment, sont tellement blessées que même si elles savent ça, elles n'arrivent pas à toucher cet état. Je sais que moi, je pratique un art corporel qui est le Wu Tao, qui permet aussi d'aider à toucher des états de grâce, et puis d'autres formes d'art corporel, de transe, certainement la méditation.
Oui, c'est très beau.
Qu'est-ce qui pourrait conduire à cela, finalement, pour des personnes, justement, qui ont du mal à ressentir ce que tu dis?
Alors, pour avoir été de ces personnes, pour moi, c'est la répétition d'une idée. Donc, je choisis, par exemple, je choisis pour ma vie l'amour et l'abondance. L'abondance, c'est parce que j'étais vraiment fauchée. Hein. Ouais. Fauchée comme les blés. Mais après, cette répétition, en fait, pour moi, dans l'état de désespérance, elle nous tire vers le haut. Il y a aussi une autre chose, et je te remercie de m'offrir la possibilité, tu vois, j'exprime ma gratitude. Je te remercie de m'offrir la possibilité d'en parler, c'est le lâcher-prise. Tu sais, ce lâcher-prise, on en parle tout le temps. Mm. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'aime beaucoup le mot anglais « surrender ». Parce qu'en fait, ça veut dire baisser les bras. Ça veut dire se rendre. Mm. Ça veut dire cesser de combattre. Ça veut dire lever le drapeau blanc. Ça veut dire se rendre
les armes.
Rendre les armes. Et c'est aussi... Eh bien, je lâche le bord et je me laisse tomber, quel que soit ce qui va m'accueillir, dans une confiance totale, en fait.
Baisser la garde.
Exactement. Dans un état de désespérance, tu es au fond du cachot. Il fait tout noir. Il n'y a que les rats et le pain sec. Tu vois l'image du Moyen-Âge, là. OK. Lâche prise. Renonce, en fait, à vouloir que ce soit différent. Lâche les armes. Enfin, baisse les armes. C'est comme ça qu'on dit. Renonce. Mmh. Et cet état de lâcher prise donne accès à des espaces à l'intérieur de nous qui sont juste abandonnés et confiants. On porte ça toute la journée et on n'y va quasiment jamais dans cet état intérieur. Ça aide véritablement. Mmh. Véritablement.
Toi, tu pourrais conseiller une façon de le faire pour l'ancrer vraiment dans le quotidien, une petite méthodologie ou voilà, typiquement disant bah là, il faut avoir cette conscience, cette vigilance. Peut-être mettre des petites alertes. Je sais que tu aimes bien aussi cette idée de mettre des petites alertes pour se dire ah voilà, là, je peux me poser, réfléchir deux secondes, enfin réfléchir, respirer. Je pensais plutôt à la respiration qu'à la réflexion pour être en conscience.
Oui, j'ai plusieurs outils que j'utilise pour moi-même ou que je conseille. Il y a effectivement de se prendre dans les bras, en glissant ses mains sous ses bras, de se prendre dans les bras, même si c'est juste sur 36 respirations, par exemple. Oui. Et à chaque fois qu'on inspire, c'est « j'inspire tout l'amour du monde ». Et chaque fois qu'on expire, j'expire de l'amour dans le monde. Ça, c'est une première chose. Par exemple, aussi, depuis quelques jours, je porte des bracelets indiens. Tu sais, ces bracelets très bruyants. Oui. Là, je les ai enlevés pour que ça...
Oui, pour l'interview.
Pour l'interview. Parce que lorsqu'ils teintent comme ça à mes oreilles, ils me rappellent d'être dans la gratitude. Je sais également, Michael Rhodes proposait un exercice que j'ai trouvé très drôle, que je n'ai jamais fait, c'est de peindre... un ongle d'une couleur criarde, l'ongle du majeur par exemple, parce qu'on va passer notre journée à voir en fait nos doigts et chaque fois qu'on voit cet ongle qui est peint en vert pomme, par exemple, il nous rappelle choisis l'amour. Dans cette situation, choisis l'amour. On est en train d'être arrêté par des douaniers pour un énième contrôle de sécurité, choisis l'amour. Souris en baissant ta vitre. Bonjour et bonne journée à vous. Choisis l'amour. En fait, effectivement, des rappels, je pense qu'on en a besoin. Ça peut être aussi le timer du téléphone portable que l'on met une alarme toutes les 3 heures. Ça peut être très important. Ou de décider, vous savez, on a tous un paillasson à l'entrée de la maison avec marqué « Welcome », « Bienvenue ». Mais si vous le prenez au mot, ce paillasson.
On va faire des paillassons « Choose love », choisis l'amour.
Exactement, de mettre... Et voilà, je passe ce seuil et à partir de là, je suis la bienvenue, quoi. Je monte dans ma voiture et je suis la reine, etc. Des rappels, c'est extrêmement important.
À l'occasion de la Saint-Valentin, justement, il y a quelques temps, j'ai eu ces photos qui ont surgi pour me rappeler que j'avais visité des villes où il y avait ce fameux « Love » de Robert Indiana, qui est ce sculpteur et cet artiste contemporain un peu des années d'Andy Warhol, hein, de ce mouvement-là, qui avait décidé de mettre ses sculptures au cœur des villes. Ça me fait penser à ça quand tu dis ça, avec une autre histoire de paillasson. Pour rappeler en permanence que si on voit ces gros loves écrits en rouge au cœur des villes, ça nous fait cette espèce de rappel qu'on cherche parce que notre inconscient switch en permanence et on oublie. Mmh. Et puis quand tout va bien, bah c'est facile quand on est très amoureux, quand on est dans ces états de transe, comme dit Mathieu Ricard, quand on est devant un paysage extraordinaire, quand on est en parfaite santé, on atteint plus facilement ces états. Mais quand on est dans le dur, dans son quotidien, ça fait du bien d'avoir ces petits rappels.
Complètement. En fait, on pourrait en mettre partout. On pourrait couvrir nos villes d'autocollants Choose Love. On pourrait se souhaiter la bienvenue. On pourrait se souhaiter une bonne journée. J'ai toujours ces images un peu désuètes des uns et des autres qui soulèvent leur chapeau pour saluer quelqu'un. Et puis, bonne journée.
Bah, bonjour, il y a quand même bon.
Complètement.
Hein,
complètement.
On dit le sens premier.
Mais on pourrait aussi se vêtir de façon à être rayonnant. Le fait d'être rayonnant, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, en fait, de penser comment je me positionne, moi, quel type de rayon je suis pour le monde qui m'entoure. Parce qu'on s'afflige facilement de tout ce qui nous arrive. Et puis, en plus, on se conforte dans notre affliction en discutant les uns les autres. Tu te rends compte, il se passe ça. Et puis, l'Etna qui vient d'entrer en éruption, j'ai vu une photo ce matin où on aurait dit un phénix. Il y a une photo de nuit qui a été prise, on aurait dit un phénix. Bon ben voilà, je peux voir soit la catastrophe naturelle, soit la beauté de cette image qui vient d'être captée par un téléphone portable. Et dans une ville, je trouve ça magnifique qu'il y ait ce type de sculpture. D'un autre côté, je pourrais voir chaque sculpture comme une merveille amenée au monde par un humain qui a pris du temps pour faire ça, pour créer ça, un tableau, un sourire, un enfant, un chien. Bon, j'aime beaucoup les chiens, je crois que ça s'entend, mais...
Non, si peu.
Ils sont vraiment, vraiment joyeux. Ils nous souhaitent la bienvenue sans arrêt, quoi.
Est-ce que font moins les chats, quand même hein. À leur façon, ils le font, mais peut-être moins... Ils sont moins démonstratifs.
Moins démonstratifs.
C'est vrai que les petits-enfants le sont aussi énormément.
Oui, complètement. Les enfants sont très spontanés. Et le rire d'un enfant... C'est génial, il faut l'absorber en fait. C'est un choix de nourriture, ce dont on parle. De quoi je me nourris? Est-ce que je choisis de m'auto-déprimer ou de m'auto-lover, finalement?
C'est une assez belle conclusion. Cette dernière question, Céline, on a compris que cet amour inconditionnel, intégral, on l'a appelé aussi, mène vraiment aussi à un équilibre émotionnel et à l'éveil, quelque part.
Oui. Je pense que l'état d'éveil n'est pas véritablement quelque chose qui est loin de nous et qu'il nous faut rejoindre. C'est un état qui est latent à l'intérieur de nous et qui attend qu'on lui donne de l'espace pour pouvoir s'exprimer. Pour moi, dans émerveillement, j'entends l'éveil à la fin de ce mot. Quant à l'équilibre émotionnel, en fait, c'est quelque chose que chacun des auditeurs peut pratiquer, exercer et observer à l'intérieur de lui. Quand on est dans un état de grâce, effectivement, mais quand on est simplement dans l'amour de soi-même, on est beaucoup moins déstabilisable. Tu peux bien me dire que mes cheveux ne sont pas suffisamment bouclés, pas suffisamment lisses, pas suffisamment blonds, etc. Si je m'aime moi-même, et là je ne parle que de l'aspect physique, mais il y a vraiment toutes les strates de mon être, je suis moins déstabilisable par ce que tu vas penser de moi-même, par ce que je vais observer du monde et comment ce monde souhaite m'agir, alors que j'ai ma propre destinée, ma propre fonction, ma propre teinte, ma propre signature énergétique.
Couleur.
Exactement. Donc en fait, pour moi, l'équilibre émotionnel découle de l'acceptation de soi sous tous ses aspects.
Parfait. Eh ben, je crois qu'on a bien compris. Hein. Choisir l'amour, choose love. C'est vrai qu'on ne veut pas forcément faire des anglicismes, mais c'est joli aussi en anglais, choose love.
Oui, complètement. Tu sais, Michael Rhodes a décidé, comme on ne peut pas se déplacer dans le monde actuellement, de donner un intensif sur l'amour inconditionnel en ligne au mois de mars. Et les auditeurs français peuvent trouver ça sur Michael Rhodes en français.
Il sera en replay.
Ce sera en replay pendant plus d'un an.
D'accord, très bien. On peut aussi évidemment se procurer ton livre, Céline Tadiotto, L'effet Michael Rhodes, qui est paru aux éditions La Maison du Sud. La Maison au Sud, oui, c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs. Hein. Je lis mal, c'est l'amour. Je suis aveuglée par notre discussion. Je rappelle le titre de ton premier livre, J'arrête de subir mon passé, également aux éditions Erol, qu'on a fait déjà un podcast sur ce sujet-là. Que dans le précédent podcast sur la lecture du corps, tu as rappelé aussi cette posture de la grande consolation, de se faire un câlin, et qu'on avait donné également le visuel sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'on le remettra à cette occasion. Je pensais à ça. On peut te retrouver évidemment sur ton site internet www.art-et-energie-de-vie.fr. Mais si on tape Céline Tadiotto,
exactement,
on tombe très facilement dessus, évidemment, sur les moteurs de recherche. Et on peut prendre des consultations aussi à distance en ligne. Céline Tadiotto, merci beaucoup.
Ah, merci beaucoup.
Je t'aime infiniment.
Merci, je t'aime intégralement.
Oui, c'est ça. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi Idoya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.